Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans.
Radio Campus Orléans 88.3, aujourd'hui lundi 11 mars 2024, je suis au 86 de la rue des Carmes, à l'enseigne Les Béquets, pour accueillir Léa Gauthier. Léa Gauthier, elle est chargée de l'animation de la filière et du déploiement du plan d'action sur le territoire pour le réseau VRAC et Réemploi, association des professionnels du VRAC et du Réemploi des emballages. Et elle est accompagnée par le propriétaire de ces lieux qui nous accueille, Bastien Favrichon, propriétaire de Les Béquets à rue des Carmes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer déjà par un petit peu d'histoire. On va revenir en 2016 lors de la création du réseau en région Centre-Val-de-Loire.
Alors plus exactement en 2016, c'est la création de l'association Réseau VRAC, donc association nationale à la base, qui représente tous les professionnels de la vente en VRAC. Donc création en 2016 par Célia Renaisson, qui voulait ouvrir une épicerie 100% vrac et voilà, qui s'est rendu compte que c'était une filière toute jeune qui manquait un peu d'encadrement, de formation. Donc elle a créé cette fédération de filières aujourd'hui qui a trois missions, donc représenter la filière auprès de toutes les instances. On mène beaucoup d'actions de plaidoyer. Ensuite, accompagner tous les professionnels de la filière dans leurs projets, que ce soit par de la formation, de l'information sur le contexte juridique, de la mise en réseau, etc., etc. Et puis on a bien sûr une mission de communication et de sensibilisation de tous les publics. Mmh. On est devenu l'année dernière, en mai 2023, l'association Réseau VRAC et Réemploi. En fait, on a fusionné avec une association qui s'appelait Réseau Consigne, dont le but était la promotion de la consigne. Aujourd'hui, on forme une seule et même entité, donc notre objectif, c'est de développer et le VRAC et le système de consigne.
Mmh. Je me tourne vers Bastien. C'est quoi le VRAC ?
Le VRAC, c'est, il existe maintenant justement une définition grâce à Réseau VRAC. C'est le principe d'acheter, de faire ses courses pour tout type de produits en réduisant totalement ou si ce n'est un maximum les emballages. Donc on va acheter et d'avoir par contre aussi la notion de pouvoir acheter à la juste quantité qu'on souhaite. Mmh. Mmh. Donc c'est pas simplement une notion que sur l'emballage et de réduire l'emballage, c'est aussi une notion de limiter le gaspillage alimentaire et d'acheter vraiment ce dont on a besoin.
Mmh. Donc limiter par exemple la production de sacs plastiques, craft, etc. puisque chacun vient avec son bocal, sa bouteille, son sac et prend ce dont il a besoin.
Totalement, c'est ça. On peut prendre soit ses propres contenants, soit justement avec un principe de consigne, qu'on soit d'une certaine manière un peu accompagné dans ça par le commerçant, mmh, qui propose sa consigne pour pouvoir emporter son produit, soit ramener la consigne, soit la conserver pour justement la réutiliser tout le temps.
Mmh. Alors il va falloir passer par une modification du comportement des consommateurs qui, chaque fois quand ils se retrouvent avec toutes leurs courses à la caisse, pardon, vont demander un sac plastique pour repartir avec. Ça veut dire qu'il faut anticiper justement lors de la préparation de ses courses, en plus de la liste, prévoir les contenants.
Ça demande, oui, si on doit parler d'effort, ça demande éventuellement cet effort-là d'y penser. C'est là où justement une action d'inclure dans ce VRAC cette utilisation de la consigne, ça permet justement d'accompagner les personnes sur place en ayant une solution pour que, on a oublié de prendre un contenant, quelque chose, attendez, j'en ai un, vous pouvez me le ramener plus tard, je vous rembourse, je vous redonne votre consigne, ou alors voilà, vous le gardez pour utiliser. Ça demande un peu ce petit effort, mais vous savez, dans les mœurs, on parlait là de sac plastique, bon, le sac, globalement maintenant, tout le monde quand même se balade toujours avec son petit sac, ça c'est quelque chose, donc on voit bien que finalement on a réussi à y arriver, et on a réussi à y arriver parce que tout le monde a son sac et tout le monde, et que quasiment personne ne demande un sac plastique ou quoi que ce soit, donc voilà, les mœurs se changent et c'est pas du tout impossible, et finalement les gens y vont, et quand on se rend compte de l'intérêt et de finalement que ce n'est pas si difficile que ça, après ça va.
Alors je parlais du sac plastique, mais après il y a également l'emballage souvent qui est manufacturé de manière à être aussi un objet publicitaire. C'est-à-dire qu'en plus du carton, ce n'est pas un simple emballage en carton, c'est aussi un emballage qui fait la promotion du produit, qui est toujours meilleur que celui du voisin, avec toujours quelque chose de nouveau, enfin bref. Et tout ça, ça se paye, en fait. Le client le paye. C'est-à-dire qu'au-delà, j'allais dire, de son paquet de farine, gâteau, je ne sais pas, autre boisson sucrée, par exemple, il va payer tout ce merchandising dans son produit. C'est ça aussi le vrac, c'est autant d'économie qui est faite aussi sur ces dépenses dont on pourrait très bien se passer, parce qu'on se retrouve après chez soi avec autant d'emballages publicitaires qui finissent dans le carton avec les prospectus publicitaires.
Tout à fait. Dans le vrac, et la véritable notion du vrac aussi, c'est ça, c'est de pouvoir acheter à un juste prix et d'acheter uniquement le produit et pas tout ce qui va autour. Nous, par exemple, ici, chez nous, on, par exemple, sur le vin, pour prendre un exemple très, très figuratif, sur le vin, une bouteille de vin de 75 centilitres, vous avez à peu près 20 à 30% du prix que vous achetez, qui correspond uniquement à la bouteille, l'étiquette, le bouchon, tout ce qui va juste pour emballer le vin. Nous, avec le système qu'on a et le système d'approvisionnement qu'on a, en fait, ces 20-30%, on ne les achète pas. Et comme on veut faire du vrai vrac, et ben, du coup, on ne va pas l'appliquer au client derrière. On va lui en faire profiter aussi. Donc du coup, en fait, en général, le prix qu'on propose ici au litre, c'est le prix qui correspond chez le vigneron pour une bouteille de 75 centilitres. Donc, on achète beaucoup plus à un meilleur prix chez nous sur ce produit vin. C'est ce qui est, ça se retrouve à peu près sur toutes les boissons qu'on fait. Voilà, parce que d'enlever déjà tout cet emballage, bah, on achète normalement uniquement le produit. Donc, il n'y a pas de raison qu'on paye beaucoup plus cher.
Et puis, alors, pour poursuivre avec l'exemple du vin, par exemple, on va souvent voir alors, des photos de coteaux, je ne sais pas, ou alors de barriques en chêne qui vont illustrer la bouteille de vin, ou alors son contenant, cet environnement qui va créer une sorte d'environnement mental, un lien entre le consommateur et le produit. Alors, c'est ce qui est intéressant ici, quand on vient au béquet, enfin à les béquets, c'est qu'on a un environnement, mais effectivement, il ne va pas y avoir de mensonges autour des coteaux, on est à Orléans. Ouais. comment dire, on va être beaucoup plus près d'une certaine forme de proximité avec le produit. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu comment vous fonctionnez, vous, par rapport aux produits que vous mettez à disposition de vos clients, et puis de ce lien justement que le client peut avoir avec le produit au-delà de ces simples photos que l'on a d'habitude sur des étiquettes.
Alors sur ça, nous, après,
on pourrait peut-être décrire le lieu, en fait. Est-ce que vous pourriez nous décrire pour nos auditeurs, auditrices?
Quand vous arrivez chez nous, vous arrivez dans la partie magasin, parce qu'on est également en arrière-boutique après une partie dégustation, pour venir prendre une petite planche, boire un petit verre sur place. Donc on rentre dans le magasin, et dans notre magasin, on va avoir, vous retrouver des vitrines avec les charcuteries, les fromages, un peu comme chez les artisans traditionnels. Un petit peu de libre-service aussi, avec des produits secs en contenant consigné, et des silos pour tout ce qui va être un peu biscuits apéritifs, noix de cajou, ce genre de produits. Et ensuite, donc, on a la partie des boissons. Donc les boissons, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle les béquets, c'est que nous avons 20 becs de tireuse. Donc nous sommes béquets 20 fois. Ce sont les 20 boissons uniquement que l'on a, parce qu'on n'achète aucune bouteille. Et sur ces 20 boissons, nous avons 3 jus de fruits, 3 sodas, 6 à 7 vins et 6 à 7 bières. Pour présenter ces produits, justement, bah, on a un mur blanc en carrelage, juste des robinets, il faut bien savoir ce que c'est. Donc on fait un affichage qui va être notre affichage à nous, en présentant toujours le logo quand même du producteur, pour que les gens aient quand même le visuel et puissent retrouver un petit peu autre part les produits. Après, la particularité qu'on va avoir chez nous ici, c'est que nous, on a voulu vraiment créer un commerce citadin de proximité, et on fait du direct producteur. Donc en fait, on n'a pas de barrique, on n'a pas de, on se sent pas comme au chai chez le vigneron. Par contre, comme on connaît tous nos vignerons, tous nos producteurs, on va présenter finalement ce qu'on a ressenti, quelle est notre relation avec le producteur. Donc en général, pour donner un peu de l'imagerie, vendre le produit au client, en fait, on passe du temps avec le client et on lui parle de qui est le vigneron, comment il le fait. Voilà. Donc quand on a l'opportunité aussi, bon, c'est sûr que si ça s'enchaîne bien, on va pas prendre autant de temps, mais voilà, dès qu'on a le temps, en fait, on prend ce temps-là, on leur dit un peu comment on les a rencontrés, comment ils font leur travail, qui ils sont. Et en général, les gens, ça leur donne beaucoup plus d'imaginaire, en fait, et d'imaginaire, en fait, c'est même pas de l'imaginaire, c'est du concret. On n'est même plus, voilà. Dans l'imaginaire, voilà. C'est que c'est véritablement du concret. Et d'avoir ce concret, en fait, ça les rassure beaucoup plus. Voilà, de la même manière que on a voulu étendre un petit peu notre gamme gamme de produits en allant sur les produits frais, type viande fraîche, les fruits et légumes, du poisson. Ça, c'est pas notre métier à la base, on n'est pas compétent pour ça, donc on a externalisé ça, on est point relais avec des solutions sur ce genre de produits. Et notamment, par exemple, la viande fraîche, où c'est un de nos producteurs du Tarn. Ils sont éleveurs, bouchers, charcutiers, font vraiment tout de A à Z en famille chez eux. Et on propose les viandes fraîches en précommande. Et là, les gens, quand ils savent que la viande, elle vient d'où, par qui c'est fait, quel endroit précisément elle vient, chose qui est quand même, en France, même s'il y a la traçabilité, il y a plein de choses qui sont faites, pas toujours évident de savoir exactement qui a fait ça et tout ça, bah là, ça les rassure énormément, ils y vont. Donc voilà, nous, on a utilisé les techniques marketing dans d'autres choses qui nous paraissaient utiles. Bon, voilà, comment on vend, comment on établit des tarifs, un peu une imagerie autour de notre concept. Mais pour ce qui est du produit, de vendre le produit, l'essentiel, c'est de retrouver un contact concret, quoi. Et d'être quelque chose de plutôt des vérités et voilà, une transparence, justement, pour le client, pour le rassurer.
Avec la possibilité de déguster, j'imagine.
L'avantage, c'est que comme on n'a pas ouvert de bouteille, on a juste à mettre un petit fond dans un verre avec la tireuse, et en plus on peut faire goûter avant d'acheter. Donc si les gens ont un moins de doute, et très souvent aussi par exemple, notamment le vin, on a un petit muscat à la tireuse, là, un muscat demi-sec qui est développé dans le Beaujolais. Ça n'existe pas à la base, le muscat dans le Beaujolais. Voilà, on a un vignoble qui s'amuse à faire justement des cépages nouveaux, des cépages hybrides. Et celui-là par exemple, tout de suite les gens, oula, non, ça va être sucré, ça va être liquoreux, j'en veux pas. Et on dit attendez, hop, on met un petit fond, on goûte, et on en surprend plus d'un, et finalement les gens même repartent avec ce produit-là, alors que sur le papier, ils n'en auraient pas voulu. Ça permet aussi de casser finalement aussi plein d'a priori, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, ça nous permet de faire découvrir plein de choses à plein de gens, et c'est au quotidien, c'est super.
Je voudrais juste rajouter un petit truc pour aller dans le même sens que Bastien. En fait, ce qu'on propose avec le vrac et le réemploi, c'est une autre manière de consommer. Donc en effet, il n'y a pas les incitations commerciales, la publicité qu'on peut voir dans certains lieux de consommation avec 5, si vous achetez le 6e, c'est gratuit, donc on achète sans réfléchir, et puis en fait ça finit au fond du placard et on finit par le jeter, ça crée du gaspillage, etc., etc. Donc c'est une autre manière de consommer, une autre manière de faire du marketing, et surtout il y a plus d'humains. En fait, les lieux d'achat vrac et réemploi, il y a aussi les commerçants comme Bastien qui sont là pour conseiller. Voilà, je veux faire tel repas, vous me conseillez quel vin, est-ce que je peux goûter, est-ce que vous me conseillez plutôt ça, plutôt ça. Donc il y a aussi un enjeu de former les consommateurs, d'aiguiller les consommateurs qui fassent des choix un peu plus conscients de ce qu'ils achètent, et que ce soit un petit peu moins robotisé quand on est dans un magasin et puis on fait tout tomber dans le caddie comme ça, quoi.
Oui, tu parlais des grandes surfaces, quand tu parlais de ces lieux-là.
Notamment.
Voilà. est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples d'adhérents qui, comme Bastien, font partie du réseau? Donc là, on est plutôt sur les apéritifs, les boissons, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme autres produits dans le réseau?
Ouais, donc nous, on a 3 collèges d'adhérents. On dit qu'on représente vraiment toute la chaîne de valeur. Donc notre premier collège, ça va être les fournisseurs de produits. Donc on a des brasseurs, on a des agriculteurs, on a des savonniers, transformateurs, donc ceux qui vraiment créent les produits, ou cultivent les produits. De l'autre côté complètement de la chaîne, on a des commerces comme Bastien, distributeurs, donc ça peut être des épiceries vrac, des magasins, des metteurs en marché. Et puis on a tous ceux qui interviennent entre, on les appelle apporteurs de solutions, c'est un peu un mot valise. En fait, dedans, on va avoir les stations de lavage de bouteilles consignées, on va avoir des logiciels de traçabilité, on va avoir les équipementiers, ceux qui fournissent le mobilier pour les meubles vrac, voilà, tous ceux qui interviennent entre le produit et le commerce.
Et concernant les entreprises qui sont très grandes consommatrices, alors je donne un exemple, de papier, d'encre et autres fournitures, est-ce qu'il est possible aussi pour les entreprises de se fournir chez des producteurs de vrac?
Oui, alors en fait on ne le sait pas forcément, mais le vrac ça touche plein de secteurs. Très souvent, quand on pense vrac, on pense les pâtes, le riz, le sucre. Donc, en effet, l'épicerie alimentaire sucrée salée, c'est les premiers produits qu'on consomme en vrac. Mais en fait, le vrac, ça concerne aussi les produits ménagers, les produits d'entretien de la maison, les cosmétiques, et puis tout un tas d'autres secteurs. Aujourd'hui, on peut acheter son terreau en vrac, donc la jardinerie propose aussi du vrac. Quand vous allez au marché acheter vos fruits et légumes, c'est aussi du vrac. Quand vous allez à la quincaillerie et que vous achetez que 3 vis, c'est du vrac. Donc en fait, il y a plein d'autres secteurs. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr, quand on va acheter juste un crayon à papier dans un magasin de papeterie, ben, en fait, on achète vrac.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer alors comment s'est développé le réseau depuis sa création en 2016 et plus précisément en région Centre-Val-de-Loire?
Oui. Donc depuis sa création, le réseau a évidemment bien grandi. À l'échelle nationale, aujourd'hui, on a à peu près 1000 adhérents. On est représenté par un conseil d'administration de professionnels. Et puis nous, équipe salariée, on est 11 aujourd'hui à travailler à la promotion et à la démocratisation de cette filière. Et en Centre-Val-de-Loire, le contexte est un petit peu particulier puisqu'on a une convention de partenariat signée donc entre l'association et la région. L'idée, donc, ça a commencé plutôt fin 2021 où nous, on avait des adhérents, on a une quarantaine d'adhérents en local qui étaient assez proactifs et qui avaient envie de faire vraiment bouger les choses dans leur région. On avait aussi une région qui a des ambitions assez fortes dans ses schémas territoriaux de réduction du gaspillage alimentaire et de réduction des déchets d'emballage ménager. Et on a une COP régionale en Centre-Val-de-Loire, donc c'est en fait un espace privilégié pour que tous les acteurs d'une même filière puissent échanger et travailler de façon vraiment collective. C'est ce qui s'est passé pour le VRAC. Donc fin 2021, première rencontre entre notre association et la région Centre-Val-de-Loire pour créer en 2022 une coalition VRAC au sein de cette COP régionale, donc animée par nous, Réseau VRAC et Réemploi. Autour de la table, il y avait des professionnels, nos adhérents, voilà, qui connaissent le secteur parce que c'est leur cœur d'activité, mais aussi tous les autres membres de notre filière qui peuvent être des acteurs institutionnels comme la région ou d'autres collectivités, et puis des associations. Et en fait, l'objectif de cette coalition, c'était de rédiger un plan d'action pour voilà, cibler au mieux les attentes du territoire et proposer des actions pour développer la filière en accord avec les attentes de la région Centre-Val-de-Loire. Donc aujourd'hui, ce plan d'action, c'est la feuille de route de la convention de partenariat qui a été signée officiellement en janvier 2023 et qui va durer jusqu'en décembre 2025. L'idée, c'est vraiment de développer la filière en local en respectant ce plan d'action.
Parce que donc au-delà des économies de carton, plastique et autres emballages que le consommateur va faire alors pour son porte-monnaie, pour la planète, c'est également la promotion d'une économie circulaire de proximité et donc autant d'économies de pétrole.
Oui, bien sûr, évidemment. Il y a tout un tas d'avantages avec le vrac et réemploi. Souvent... on pense à l'intérêt voilà, écologique, mais il y en a plein d'autres. On a dit tout à l'heure recréer du lien social, repenser sa manière de consommer, voilà, retrouver aussi une autre forme de manière de vivre en adoptant plein de gestes vrac et réemploi. Donc c'est bénéfique pour la planète, pour nous, pour notre charge mentale, pour l'économie locale. Il y a plein d'avantages.
Et puis pour peut-être retrouver du plaisir à consommer. À aller faire ses courses, c'est pas forcément comment dire, très attractif de savoir qu'il va falloir se retrouver sous les néons avec le bruit, on va pas pouvoir goûter les produits, on va pas pouvoir ni même voir les produits qui sont toujours cachés. Il y a quelque chose d'un peu magique avec ce système de consommation dans les grandes surfaces, on ne sait jamais ce qu'il y a dans la boîte, ce qui est tout à fait différent ici. Est-ce que tu pourrais nous expliquer Bastien, pourquoi est-ce que tu as voulu monter cette entreprise de vrac?
Pourquoi? Bah déjà parce que j'étais déjà moi-même en fait consommateur vrac. Enfin moi j'ai grandi dans ça. Moi j'ai grandi à Trénoux, donc au nord d'Orléans, d'une famille. Mes parents sont de famille originellement de la campagne déjà à la base, donc à consommer voilà des choses qu'il y a autour de chez soi. Donc les légumes qu'on mangeait, bah, c'était soit les légumes que cultivait mon père dans le jardin, soit les légumes du maraîcher à côté. Les viandes, pareil, c'était les éleveurs d'à côté. Donc j'ai déjà je me suis alimenté comme ça déjà enfant. Je dis souvent que le terme locavore, avant que je l'entende plus tard, bah, je faisais déjà ça avant que le terme existe. Donc pour moi, ça me paraissait toujours naturel en fait de rester dans ça. Bon, j'ai eu ma période étudiante à Paris où bon là, j'ai pas eu trop le choix quand même d'aller faire mes courses comme je pouvais. Mais voilà, le jour où j'ai vu un poulet minuscule dans un morceau de plastique, je me suis dit bah non, il y a des choses qui vont pas quand même. Donc voilà, j'avais déjà cette manière de consommer. Donc je m'imaginais pas vendre en fait monter un commerce et de vendre différemment que la manière dont moi-même je consomme. Donc il y avait ça et puis c'est venu. Bon après c'est c'est venu aussi, voilà, avec mon associé de on aime bien l'apéro avec les copains, et du coup d'acheter en fait finalement assez régulièrement les mêmes bouteilles de bière. On s'est dit, mais quand on regarde le cabas, on voit toujours la même en fait. Donc on s'est dit, pourquoi on pourrait pas simplement en garder une et puis juste aller la remplir, quoi. Parce qu'on s'est dit, ça devenait absurde. Ça devient un peu, en fait, c'est ça, c'est que c'est devenu un peu absurde pour nous de tout le temps racheter le même emballage, On avait souvent un peu cette image aussi de par notre expérience, de voir le client arriver dans nos magasins. Mon associé est un ancien du VNB, et moi j'ai travaillé aussi dans des épiceries en direct producteur ou chez les cavistes. Et finalement, les gens, quand ils rentrent, veulent découvrir quelque chose de nouveau. Donc s'il y a la proximité, s'il y a l'opportunité de leur présenter des choses nouvelles, mais qu'encore une fois, s'ils ne peuvent pas goûter, il y a toujours un peu la petite peur, la petite appréhension. Et puis finalement, en général, ce qu'on observe beaucoup, c'est que le client, finalement, il repart avec la même chose. Donc, très souvent, on dit « Allez, cette fois-ci, je change. » Et puis finalement, on repart avec la même bouteille de vin. Donc, c'est ça. On s'est dit, voilà, on a envie de repartir sur ces notions de vrac sur la boisson pour ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'après nous est venue l'idée. Et elle nous est venue plutôt sur le domaine de l'apéritif pour mettre en valeur le vrac de boisson, parce que c'est quelque chose, quand on a fait un peu nos études, à l'époque où on les a faites, c'est vrai que les statistiques, notamment émanant de réseau vrac, sur la vente de boissons, de liquides, c'était pas fameux. Donc on s'est dit, pour essayer de faire en sorte que ça marche, on va essayer de mettre ça en valeur. On va essayer de l'enrober, justement, de faire un peu de marketing, justement. De faire quelque chose qui va donner envie. Et comme on était déjà quand même dans, plus particulièrement moi, dans ce métier-là du produit du terroir, un petit peu, des charcuteries, des fromages et ce genre de choses, on essayait de mettre les choses ensemble comme ça et de se dire, allez, peut-être autour de l'apéritif, de créer aussi un peu du vrac un peu fun, quelque chose qui finalement touche à beaucoup. Beaucoup de monde, on est en France, c'est un peu notre culture. Donc voilà, on s'est dit, ça pourrait bien matcher d'amener une notion de plaisir autour du vrac, et que les gens ils viennent, tiens, c'est pour mon plaisir, donc là je vais faire l'effort, et peut-être qu'en rentrant par cette porte là du plaisir sur l'apéro, peut-être qu'après ils se diront, bon je peux peut-être enchaîner, maintenant je vais aller un peu m'acheter, comme on disait, mes pâtes, la litière de mon chat, voilà, les produits d'entretien, et puis voilà, c'est parce que dans le vrac, de toute façon, il faut rentrer par une première porte, et puis après on voit pour le reste.
Parce qu'il y a une image de discount qui colle un peu à la peau du vrac en France, notamment dans les grandes surfaces. On voit, c'est l'aspect strictement économique qui est mis en avant, le 5, le 6e gratuit. On a des rayons qui sont pas très grands d'ailleurs, enfin je pense aux grandes surfaces, dans lesquelles on peut faire des économies sur l'emballage et sur le produit sans forcément savoir de quel produit il s'agit vraiment, parce qu'il n'y a aucune étiquette, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y a une défiance du consommateur. Alors pourquoi l'emploi du terme coalition, qui serait plutôt du registre martial, de la guerre? Est-ce que justement le réseau du vrac est en guerre contre la grande distribution?
Waouh, on n'avait jamais fait le rapprochement.
Quand même.
Oui. Alors sur la sémantique, coalition, c'est parce que c'est le nom des structures qui se regroupent au sein de la coop régionale. Donc c'est plutôt consortium d'acteurs, si on peut employer notre terme, collectif, ça marche aussi très bien. Après, est-ce qu'on est en guerre contre la grande distribution? Non, on travaille avec tout le monde. Aujourd'hui, le cœur de nos adhérents, ça reste des épiceries indépendantes, donc voilà, des vrais convaincus de la première heure. Mais bien sûr qu'on travaille avec la grande distribution, parce que aujourd'hui, les Français et les Françaises, ils vont d'abord dans les grandes enseignes avant d'aller dans un petit commerce de proximité. On travaille à ce que ça change, mais en tout cas, c'est le cas encore aujourd'hui, donc bien sûr qu'on travaille avec eux. Aujourd'hui, les rayons vrac dans les grandes surfaces, ils sont pas toujours très attractifs. Donc on travaille avec eux à la formation des personnels qui gèrent ces rayons-là, notamment sur tout ce qui est bonne pratique d'hygiène, pour rendre les rayons un peu plus un peu plus sympas et puis bien sûr propres. Et puis en fait, aujourd'hui, les acteurs de la grande distribution, ils n'ont pas le choix, parce qu'il y a des échéances réglementaires qui font qu'ils doivent présenter des produits sans emballage à leurs clients. Donc eux-mêmes nous approchent beaucoup et nous demandent un accompagnement spécifique sur ces sujets.
D'accord. Donc ce ne sont pas vos ennemis.
Ce ne sont pas nos ennemis.
Il y a gros à faire quand même concernant le vrac et le réemploi. Quand on regarde la grande distribution, c'est une autre manière de consommer. Enfin, c'est un comportement qui est acquis, j'ai envie de dire, chez les consommateurs, consommatrices.
Je trouve...
Ce sont des réflexes, alors peut-être pas à Trénoux, où il y a une proximité avec, même si les grandes surfaces d'ailleurs s'invitent hein, dans les ronds-points, souvent en périphérie, des, dans les campagnes, hein, dans les villes à Trénoux, ouais. Je suis sûr qu'il doit y avoir, hein, on ne dira pas le nom de l'enseigne, nous on en a vu arriver, ils sont partout maintenant.
Il y a ce qu'il faut aussi en campagne, mais c'est vrai que, en campagne, il y a toujours eu et il y a toujours aujourd'hui, de toute façon, cette notion, comme on dit, l'acheter en vrac, c'est simplement d'acheter chez le producteur, forcément d'acheter en vrac, il n'a pas besoin de l'emballer le produit. Donc, mais sur la grande distribution, moi ce que j'observe, c'est que là où il y a les manquements, c'est d'intégrer cette notion centrale qu'on expliquait tout à l'heure, la notion de proximité. C'est-à-dire que en fait, si dans la grande distribution ils acceptaient d'allouer un petit peu d'argent pour payer du personnel qui puisse accompagner, ce qu'on a depuis le début, on parle surtout finalement où on a un accompagnement avec le consommateur, on a une proximité avec lui, et dans le supermarché il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait que on voit actuellement des supermarchés qui font même un rétropédalage et qui enlèvent des rayons vrac sous le prétexte de on perd de l'argent parce que on se retrouve avec des produits tout le temps par terre, ça. Et on sait tout de suite, cette justification est faite pour dire c'est la faute du consommateur. C'est pas la vie, en tout cas c'est pas mon avis. C'est pas la faute du consommateur, c'est la faute quand même à ne mettre absolument personne dans ses rayons pour accompagner les gens. Il y a plein de gens qui vont, ça va un peu les stresser d'ouvrir le silo, d'avoir peur d'en mettre partout, ce qui se comprend. On n'a pas envie, parce que les gens, même si après... ils n'ont pas envie de gaspiller non plus, personne n'a envie de jeter de la nourriture par terre. Donc voilà, certaines personnes, ça peut un peu les stresser, ils ne vont pas y aller simplement sur ça. Et simplement, si on les accompagne, ils vont dire ils avaient envie d'y aller, mais il y a un petit stress, une appréhension, des choses. Donc voilà, ça manque, je pense, de cet accompagnement qu'on parle depuis le début.
Que propose le réseau VRAC et Réemploi? Comment se porte la coalition, alors, depuis sa création en janvier 2023?
Ouais. Alors du coup, la coalition, c'était pendant l'année 2022, c'était le consortium d'acteurs qui a rédigé un plan d'action. Donc aujourd'hui, c'est la convention en elle-même qui est lancée. Comment on se porte? Très bien. On est en janvier 2024, donc on vient de clôturer la première année. Le bilan est positif. Donc cette première année, ça a été, tout ce qu'on dit depuis le début de cette interview, ça a été beaucoup faire connaître la filière, présenter, sensibiliser les consommateurs. On n'est pas encore au bout de nos peines, hein. Ça prend du temps de changer des habitudes de consommation. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées pour communiquer, montrer un peu les gestes du quotidien qu'on peut adopter pour réduire ces déchets d'emballage jetable. Et puis après, cette convention, elle concerne aussi les professionnels. Donc il y a beaucoup de travail, un travail de fond qui est invisible, d'aller convaincre de nouvelles entreprises de réduire leurs déchets d'emballage jetable, d'aller convaincre aussi les politiques publiques, les collectivités, les territoires de se saisir de cette question et d'être eux-mêmes acteurs et de valoriser le vrac et le réemploi dans leur territoire. Et puis bien sûr, moi je suis chargée de mission qui anime cette convention, donc mon rôle c'est aussi de soutenir nos adhérents locaux.
C'est un secteur en développement ?
Oui. Oui, ça continue de se développer, on est encore une filière relativement jeune, et puis le chiffre d'affaires global du vrac continue de progresser. Donc le potentiel n'est pas encore atteint.
Concernant le mois du vrac et du réemploi, donc c'est le mois de mars qui est consacré justement à faire connaître le vrac et le réemploi. Est-ce que vous pourriez nous parler des ateliers que vous menez, également peut-être du partenariat que vous avez avec ESOP, l'épicerie solidaire étudiante qui est située à la source? Alors les ateliers d'abord.
Donc juste pour rappel, le mois du vrac et du réemploi, c'est 31 jours du 1er au 31 mars. Pour se dire que c'est le moment de commencer un petit peu à changer ses habitudes et de prendre de nouvelles habitudes pour consommer autrement. Donc c'est un mouvement national qui a lieu dans toute la France. Bien sûr, il est décliné en local en région Centre-Val de Loire. Donc ça se traduit par des animations chez nos adhérents directement, qui peuvent proposer soit des réductions, soit des ateliers, soit des dégustations de produits. Il y a plein de choses, des petits cadeaux à gagner, des choses comme ça. Et puis nous aussi, Réseau Vrac et Réemploi en Centre-Val-de-Loire, on mène des ateliers, des activités. Donc notamment pour ESOP, en fait, on va proposer un atelier de découverte aux étudiants qui viennent faire leurs courses chez ESOP régulièrement. Là, ce sera l'occasion pour eux de découvrir qu'est-ce que c'est le vrac. On va leur faire aussi goûter des produits en vrac pour leur permettre d'adopter le geste et puis de peut-être casser les stéréotypes qu'on peut avoir et justement d'affronter cette peur d'utiliser un silo. ESOP, qui est une épicerie donc sociale à destination des étudiants d'Orléans, qui est adhérent chez nous, puisqu'ils ont le projet justement de proposer un rayon vrac. L'idée là, c'est super important et c'est un message très fort, c'est de se dire en fait le vrac, c'est vraiment un mode de distribution qui doit être accessible à toutes et tous, y compris éventuellement des personnes en situation de précarité.
Et ce sont donc plus de 10 adhérents qui, au cours de ce mois, jouent le jeu en région Centre-Val de Loire. Non, pardon, sur la métropole orléanaise.
Ouais, c'est ça. À l'échelle nationale, pour vous dire, on a à peu près à 2000 événements référencés. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour notre site vrac-et-réemploi.com, où il y a une carte interactive de tous les événements qui sont proposés à l'occasion de ce mois du vrac et du réemploi. En région Centre-Val de Loire, on est à 80 événements aujourd'hui à l'heure où on se parle. Et plus particulièrement dans la métropole, ouais, on est à dizaines d'événements. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être des réductions, ça peut être des jeux concours, ça peut être des fresques du plastique aussi pour s'informer. Donc je vous invite à aller voir notre carte interactive sur Internet.
Alors il y a quelque chose que je n'ai pas suivi. Vous m'aviez parlé de 1000 adhérents tout à l'heure et là vous me parlez de 2000 événements.
Oui. Alors. Parce que certains de nos adhérents, il y a des réseaux de magasins qui ont une adhésion. Du coup, j'ai bien dit qu'on avait 1000 adhésions et pas 1000 provisionnels. C'est pas 1000 personnes, en fait. C'est 1000 entreprises, si vous voulez.
Oui.
Du coup, je vous donne un exemple. Le réseau de magasins biologiques Biocoop est adhérent chez nous à l'échelle, du coup, le réseau Biocoop au niveau national. Mais tous les Biocoop de la région Centre-Val de Loire et même de France proposent des réductions à l'occasion du mois du vrac et du réemploi sur le rayon vrac. Donc, je vous laisse compter le nombre de magasins Biocoop en France. Ça fait beaucoup.
D'accord, très bien. Je pense qu'on a tout vu, non ?
Ouais.
Qu'est-ce que j'avais dit ?
C'est quoi
le réemploi ? Présentation du réseau, création du Alors peut-être sur la région, peut-être terminer sur la région. C'est un soutien fort de la région que la signature de cette conférence de... Que la signature de cette convention de partenariat, concrètement, comment ça se manifeste ? C'est un soutien alors politique fort, évidemment, financièrement peut-être ?
Oui, tout à fait. La convention de partenariat, en fait, elle est budgétisée. Donc il y a un plan d'action et puis chaque action a un budget alloué. La région Centre-Val de Loire subventionne à 70% cette convention et nous, l'association, à 30%. Donc ça vous montre un peu les ambitions de la région Centre-Val de Loire de vraiment développer des choses en local. Et puis j'en profite aussi pour dire que la région aujourd'hui, elle veut vraiment faire progresser les choses. Donc s'il y a des professionnels qui hésitent ou qui ont besoin d'un accompagnement financier, de formation ou autre, ben, il ne faut pas hésiter à venir nous voir parce que justement cette région, elle est présente et elle a envie aujourd'hui de faire progresser les choses.
On vous retrouve sur le réseau, donc vrac-réemploi, et évidemment sur le site vrac-et-réemploi.com. Merci à vous.
Merci.
Expression citoyenne, locale, décryptage des médias, journalisme, information, lutte contre les discriminations, liberté d'expression, la parole aux citoyens. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. Rejoins la rédaction. La Rédac Pop de Radio Campus Orléans. We'll be right back.
Cat asked me, say, are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody?
Damn right I'm somebody.
Lynn Collins, yeah. Miss Collins, are you somebody?
Yes, I am somebody.
Well, she is. She's a lady. Thank you.
Right on.
Miss yeah. Ray, are you somebody?
Yeah, right.
Are you somebody, Brother Pinkney?
You damn right.
You sure got a lot of grip to say that. Yeah, are you right. Somebody, Brother Parker?
Yeah, damn right I'm somebody.
Yeah.
What
yeah.
About you, Assalamu Alaikum? Well, Salaam Alaikum. Mm-hmm. You know, yeah. We speak of love and happiness.
Yeah.
To me, happiness is Fred Wesley, playing his horn.
Hey, go! Thank you.
Le plan de mon exposé est le suivant. D'abord...
Radio Campus !
Chaque année, 10 millions de Français les consultent.
88.3 FM !
Y compris les hommes politiques.
Dans ta face !
Il y a le feu à l'agence de voyage. Inutile de s'y rendre.
Radio Campus Orléans, 88.3 FM.
Nanjé. C'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi, tout c'est moi.